Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bonjour, c'est notre cinquième épisode aujourd'hui du balado de l'IPS, le dernier avant qu'on prenne congé pour les vacances juillet-août. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mélisange Roux, Émile Brault et Marie-Frédérique Roy qui sont en fait là pour nous parler. On en a un petit peu, on a vendu le punch un petit peu, mais on va parler ce matin d'études en pharmacologie parce que ça fait quatre épisodes, en fait, c'est le cinquième, qu'on parle de différents travaux qui se font en pharmacologie, qu'on parle de différentes thématiques de recherche, mais... Plus que ça, c'est quoi étudier en pharmacologie? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est ça, ce matin, à quoi on va s'intéresser avec mes invités. Donc, je vais commencer par vous dire bonjour. Merci d'être là.
Oui, bien, merci beaucoup. C'est super gentil de nous accueillir.
Ça fait plaisir. Est-ce que tout va bien dans vos écouteurs? Moi, je vous entends très bien. Ce matin, c'est une première expérience, je pense, pour l'ensemble d'entre vous.
Oui.
Donc, merci d'être là. Merci d'avoir eu le courage de venir en studio. Il y a des gens que ça les intimide un petit peu, mais on voit finalement que c'est pas si pire que ça. Alors, je vais commencer par vous présenter à tour de rôle. Donc, Mélisange Roux, qui est coordonnatrice de laboratoire pour tout ce qui est laboratoire pratique au baccalauréat en pharmacologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, plus que ce que je viens de dire, en fait? Qu'est-ce que tu fais de manière générale? C'est quoi tes journées types, par exemple?
Oh là là, ouais, ça dépend. Mais au final, pourquoi mon poste existe, c'est que nos étudiants au bac ont des gros laboratoires. Donc, je m'occupe de tout ce qui est l'aspect science, la préparation de ces labos-là, la préparation des protocoles. M'assurer que ça fonctionne aussi quand les étudiants arrivent en labo puis qu'ils font les projets. Donc, je m'assure que toute la science marche, finalement. Et comme ce sont des cours, c'est crédité, évidemment, c'est évalué.
Okay.
Donc, je fais également l'aspect pédagogique là, derrière ça.
OK, donc l'aspect pédagogique, en ce sens, est-ce que tu crées les cours ou c'est plus tu crées le contenu de laboratoire des cours? Comment tu fais? Est-ce qu'il y a des cours laboratoires?
Oui, en fait, la majorité des cours sont strictement... la majorité des laboratoires, c'est-à-dire, sont donnés sous forme de cours qui est seulement un labo. Donc, un travail pratique, là, vraiment crédité, par exemple, 3 crédits qui vont être associés à un cours de biochimie.
Okay.
Qui vont être juste des travaux pratiques. Les étudiants viennent en labo, passent la journée avec nous, font des projets super intéressants là, de A à Z où ils génèrent des résultats.
OK. Et
nous, c'est sûr qu'on évalue certaines compétences en lien avec les labos. Donc, c'est tout l'aspect écriture des notes de cours, évaluation des étudiants, examen pratique, etc. que je fais.
OK. Puis ça c'est comme quasiment, je dirais, si je compare ça aux autres facultés, c'est quasiment un poste de professeur. Tu sais, je veux dire, quand c'est pas mal. T'es professeur, donc?
Non, dans le fond, on me pose souvent la question, c'est drôle que t'en parles, parce que on est un peu dans une zone grise, là, les cordeaux de laboratoire. On est quand même... plusieurs à faire ce travail-là, mais au final, on n'est ni un chargé de cours, ni un professeur. On a un statut professionnel, finalement,
okay.
Puis on travaille à l'année longue là, pour préparer ces cours-là.
Comme des super professionnels de recherche, dans le fond, qui vont en plus faire de la pédagogie.
Qui font de l'enseignement, c'est ça. Qui font vraiment la plus grande tâche, je dirais, c'est vraiment de l'enseignement auprès des étudiants. Puis c'est le fun parce que c'est l'enseignement pratique, on est avec eux. En labo, les journées pendant qu'ils font leurs manipulations, leurs expériences. Et dans le fond, moi, ma tâche, je donne 3 labos.
OK.
Je donne un labo de microbiologie en première session, un labo de biochimie, puis un labo de biologie cellulaire.
Puis nos amis ici ont probablement suivi ces labos-là avec toi, j'imagine?
Mais pas avec moi, parce que lorsqu'ils sont passés au bac, j'étais en congé de maternité à ce moment-là. Donc, ils l'ont fait avec ma remplaçante. Mais je les aurais normalement rencontrés lors de leur parcours.
Puis le baccalauréat en pharmacologie, pour être plus clair, c'est-tu ici au campus principal ou c'est au campus de la santé? Moi, je me posais la question, où est-ce que c'est les cours au niveau baccalauréat?
C'est les deux. Ils font moitié du parcours à la Fac des sciences, puis l'autre moitié à la faculté de médecine. Et moi, je les suis dans ce parcours-là. Ça veut dire que Mes deux premiers labos, je les donne à la Faculté des sciences et le dernier labo, il est à la Faculté de médecine.
OK, donc c'est à FNAF. Parce que oui. Là, après ça, quand on poursuit maîtrise doc, ben là, on fait le grand saut de l'autre côté à la FMSS. Moi, c'est les étudiants que je vois le plus souvent quand je travaille à l'Institut. Merci. Puis, je sais aussi que, Mélisange, t'as beaucoup participé avec Mylène Côté à la refonte du programme un petit peu pour le rendre plus professionnel. Oui. On va pouvoir en parler tout à l'heure, mais, mm-hmm. mais bienvenue à cet épisode de Balado.
Merci pour l'invitation, Véronique.
C'est un grand plaisir. Émile Brault, qui est devant moi, qui est finissant au baccalauréat en pharmacologie,
oui, dernière,
aspirant à la maîtrise. Même, je pense, dès cet été, tu commences des petits cours, ça que Mylène me disait, là, pour la maîtrise.
Oui, bien, un des avantages d'être dans le bac en pharmaco, c'est qu'on est super proche des professeurs,
oui.
qui sont souvent nos professeurs dans les différents cours. Puis ça nous permet d'avoir des stages au travers de notre parcours, puis déjà commencer notre projet de maîtrise. Donc, tu vois, là, mon projet de maîtrise, je développe des nouveaux analgésiques chez Philippe, que vous avez eu dernièrement sur le balado. Puis, justement, ça a été un de mes professeurs lors de ma deuxième année.
OK.
Puis, mon projet de maîtrise est à peu près fini déjà, juste à travers des stages, des crédits de recherche. Donc,
il te reste la rédaction, finalement.
Quelques expériences encore.
OK, quelques expériences, puis après ça, on tombe dans la rédaction. Ouais. C'est-tu le bout qui est le plus redouté, ça, chez les étudiants en pharmaco? Moi, j'aime ça.
Tu vois, toi, t'es en communication.
Mais je suis en rédaction, oui, c'est ça. Moi, j'adore rédiger. Mais toi, comment tu vois ça?
C'est pas mon bout préféré, mais on doit passer par là, éventuellement.
Puis analgésique, j'ai parlé avec Michael Desgagnés lors de il y a deux balados, je crois. Mm-hmm. Est-ce que tu travailles un peu avec lui? Parce que lui, je sais qu'il testait certaines alternatives aux opioïdes.
Mm-hmm. Moi, je reste pas mal sur les opioïdes en ce moment. C'est plus mon système de prédilection.
Bon, on aime ça, droguer les gens.
Non, exactement. Ben, le but, c'est d'avoir des molécules avec moins d'effets secondaires. Là,
oui,
évidemment.
C'est ça.
Donc, je mise encore sur le système opioïdergique, mais oui, de plus en plus, là, on se dirige vers d'autres systèmes parce qu'on se rend compte que ça mène à pas grand-chose des opioïdes.
Ah non. Mais je trouve ça fascinant quand même qu'on essaie d'aller jusqu'au bout de ça pour être sûr et certain que c'est ça, que c'est peut-être pas le meilleur système finalement. Comment on vit ça quand on arrive à cette conclusion-là puis qu'on a travaillé pendant des années?
C'est une bonne question. Je pense que la réponse la plus évidente, c'est on se tourne vers un autre projet. Dans le sens où j'ai pas juste ce projet-là, là, t'sais, je viens de vous dire que mon projet est à peu près fini. Mm-hmm. Ben, ça me permet d'avoir d'autres collaborations là, en France en ce moment. J'en ai eu une en Chine aussi.
Wow.
Donc, ça nous permet évidemment de toucher à plein de projets différents et de s'intéresser à plus qu'une chose. Donc,
OK. Puis, est-ce que toi, t'aspires, parce que je sais que t'es plus au niveau fondamental, est-ce que t'aspires justement à être professeur? Est-ce que t'aspires à être dans l'académique à long terme?
C'est une bonne question. Là, en ce moment, j'aime ce que je fais. J'aime ma maîtrise. Je pense poursuivre au doctorat.
OK.
Après, ce que je vais faire, je sais pas. Le poste de Mélisande, je m'intéresse beaucoup.
Attention, là. Hein? On repart pas en maternité.
Mais
parce
la dernière fois que je t'ai rencontré, Émile, tu semblais intéressé par l'enseignement. Il me semble que c'est ça que tu m'avais dit que tu souhaitais enseigner. Ça m'avait...
Oui, exactement. En pharmacologie, la plupart de nos coordonnateurs sont super, super inspirants. Nos professeurs aussi. Donc oui, transmettre les connaissances, c'est quelque chose qui m'intéresserait, je pense.
Ben, je pense que tu serais bon. En tout cas, je te connais depuis à peu près 20 minutes, puis je trouve que t'as l'air sympathique. T'as une bouille bien sympathique.
Merci.
Merci, Émile, d'être là aussi. Notre troisième invité, Marie-Frédérique Roy, qui est à ma droite, en fait. Bonjour.
Salut.
Donc, toi aussi, t'es finissante au baccalauréat en pharmacologie.
Oui.
Et maîtrise aussi à venir. Puis toi, t'as une expérience plus, ce que Mylène me disait, au niveau de l'industrie, au niveau agroalimentaire. Puis ça, c'est intéressant parce que quand on pense à pharmacologie, souvent, on pense à médicaments, on pense vraiment à l'être humain, tout ça, mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'on a aussi d'autres opportunités ailleurs. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, Marie-Frédérique?
Oui, bien sûr. En fait, pharmacologie n'a pas été le premier bac que j'ai fait dans mon parcours universitaire. J'ai commencé par un bac en agronomie.
OK.
Parce que je viens un peu du monde agricole. Les sciences animales, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours.
Tu viens de Farnham, dans le fond?
Non. Mais oui, c'est ça, en fait. Donc, à la fin de mon bac en agronomie, je me suis rendu compte qu'il manquait... j'ai développé un intérêt pour la recherche, puis la formation en tant que telle, sciences animales, n'est pas axée sur le fondamental, le labo particulièrement. Donc, je me suis tournée vers la pharmacologie pour aller chercher cette optique-là dans ma formation. Puis justement... Ce bac-là que j'ai fait avant en agronomie a teinté un peu mes choix dans mes stages que j'ai fait d'aller vers l'industrie plus agroalimentaire pour pouvoir mélanger, combiner les sciences animales que j'aimais depuis toujours puis le volet plus recherche fondamentale là, que j'étais en train d'apprendre dans le bac de pharmaco.
T'as comme combiné tes deux passions.
C'est ça, exactement.
Pour te créer toi-même, finalement, ben pas le poste idéal, mais oui, les stages idéaux. Oui. Puis, peux-tu nous parler un peu justement de ces stages-là que tu as fait durant ton parcours au bac?
Oui, en fait, c'était chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, oui.
OK.
Donc, j'ai fait... mes deux premiers stages étaient pour la même organisation, mais à deux centres de recherche différents, un à Saint-Hyacinthe puis l'autre ici à Sherbrooke. Et en fait, c'est de la recherche et développement qui était axée surtout sur la production porcine. C'était les équipes de recherche que j'ai intégrées orientaient leurs travaux là-dessus.
OK.
C'était en fait sur la problématique du fait que la législation se resserre beaucoup sur l'utilisation des antibiotiques dans les élevages.
On en a parlé dans le balado avec oui. Renaud, justement.
Mm-hmm. Ouais. Donc, la période de sevrage et porcelet, c'est une période très critique qui nécessitait historiquement l'additif dans l'alimentation des antibiotiques. Puis nous, on travaillait à chercher des alternatives à ça, des suppléments alimentaires qui pourraient aider à augmenter le taux de survie des porcelets, mais aussi en regardant les facteurs environnementaux, là, ce qui est rejeté dans l'environnement par les fumées et tout seul.
Donc, Mylène a parlé de vitamine D, peut-être. Pour,
ça, exactement.
Ben, il en parle même pour les humains. T'sais, pendant la COVID, il disait que les gens qui avaient de la vitamine D étaient moins dans les urgences parce que c'est bon pour le système immunitaire. Donc, j'imagine que c'est aussi vrai pour les porcelets qui ne sont pas loin de nous, hein, je pense, au niveau, au niveau biologique, si je ne me trompe pas. Ben, merci beaucoup, Marie-Frédérique, d'être avec nous.
Merci à toi.
Puis c'est super intéressant. On va pouvoir en reparler plus amplement. Là, je voulais vous présenter pour commencer, mais j'aimerais ça qu'on commence par la grande question que tout le monde se pose. Parce que, en parlant avec Mylène, qui en passant, j'arrête pas de nommer Mylène, mais c'est la... dis-moi son poste encore.
C'est la coordonnatrice académique du programme.
En pharmacologie, qui est une personne très sympathique, qui est ma voisine de bureau aussi. Donc, je parlais avec elle, puis je me suis rendu compte, puis avec toi aussi, qui est en train de faire une culture, si je me trompe pas, mais...
J'étais, oui, en train de faire de la culture cellulaire.
Hein. Quand on s'est parlé au téléphone, mais je me suis rendu compte moi-même que j'avais du mal à différencier ce qu'on dit la pharmacie et la pharmacologie. Puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à différencier parce qu'on sait qu'il y a c'est très contingenté en pharmacie, alors qu'en pharmaco, ben tu sais, c'est plus timide un petit peu. Fait que c'est quoi la différence? Puis pour vous, c'est quoi qui est l'avantage d'étudier en pharmacologie? Je sais pas qui veut commencer, peut-être.
Je pense que je vais prendre la balle. La grosse différence, en fait, que je dis toujours à mes grands-parents, à mes oncles, mes tantes, quand ils me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, puis je leur dis je suis pharmacologue. Donc, ils me disent, tu vas travailler en pharmacie? Non, c'est pas ça. Donc, le pharmacien, c'est celui souvent qui va vous donner vos médicaments, mais aussi qui va s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, qui va aussi vous donner certains soins. Mm-hmm. Donc, un poste super important. Les pharmacologues, c'est eux qui vont développer le médicament avant qu'ils arrivent sur le comptoir. Donc, qui vont faire les tests cellules, animales, qui vont participer aussi à la conception un peu du médicament, comprendre comment le médicament fonctionne aussi. C'est très, très intéressant.
C'est comme si on... Par exemple, en pharmacie, quand on arrive au comptoir puis qu'on demande au pharmacien c'est quoi les interactions possibles avec la molécule qu'on va prendre, ben c'est ça que Mylène me disait aussi, c'est comme si c'est vous qui avez déterminé ça, en fait, en faisant l'étude de la molécule, de dire, ben avec telle je sais pas moi, protéine ou telle affaire, ben il va avoir une mauvaise interaction. Donc, ces deux médicaments-là, on peut pas les prendre en même temps. Ça, oui. C'est vous qui déterminez ça.
Puis, autre que l'interaction médicamenteuse, il y a aussi juste le développement du médicament peut réduire, donc quelqu'un qui va te donner, le pharmacien va donner un médicament pour ton arthrite, par exemple, il y a des scientifiques derrière qui ont dû travailler pour trouver cette molécule-là qui avait une interaction avec l'arthrite, puis c'est quoi le chemin, comprendre comment ça fonctionne, donc l'effet du médicament sur ton corps, puis aussi comment ton corps agit sur le médicament. Donc,
Fait que dans le fond, les pharmaciens, si on veut vraiment comme genre donner une vibe cool à votre truc, là, ils étudient ce que vous faites.
C'est tout à fait ça.
Hein?
Oui.
Les autres, ils prennent le livre de tout votre travail là, avec sang et sueur, là, puis ils lisent ça, puis eux autres deviennent des généralistes, finalement. Eux autres connaissent toutes les molécules, mais en surface.
Ben, puis vous... Je ne veux pas dénigrer leur travail non plus. Là. C'est des gens super importants, puis clairement qui ont un rôle de protection de la société. Mais oui, leur travail est basé sur des centaines d'années de recherche de pharmacologues.
Voilà.
Donc,
oui, puis même les fiches que les pharmaciens vont consulter, les fameuses fiches qu'ils regardent quand ils prennent autant de temps pour nous donner nos médicaments au comptoir, bien, ça va être notamment rédigé, ça peut être rédigé par des pharmacologues, ces fiches-là là, dans les organismes gouvernementaux à ce niveau-là. Donc, le travail des pharmacologues se trouve derrière, en fait, le travail des pharmaciens si on... si on veut parler de ces deux emplois-là là, en
pour
parallèle.
Voir la différence. Mm-hmm. Donc, les gens en pharmaco, puis peut-être que je me trompe, je ne sais pas si Marie-Frédérique, tu vas pouvoir me le dire, mais c'est des gens qui ont le goût d'aller plus creux, finalement, d'aller vraiment plus profondément dans un sujet, de comprendre vraiment une molécule ou quelques molécules, plutôt que d'avoir une connaissance plus générale des molécules en général, finalement.
Oui, définitivement.
Donc, ce serait les gens, mettons, les étudiants, les personnes étudiantes en pharmacologie, c'est des gens curieux. Comment vous diriez que les personnes en pharmaco, c'est quoi leur profil, par exemple?
Bien, on a, comme les débouchés sont très, très vastes, en pharmaco, on a comme pas un profil type très, très défini, mais ce qui rejoint tous nos étudiants, toutes nos personnes étudiantes au bac, c'est certainement un intérêt pour les sciences de la santé, puis pour améliorer la santé de la population. Ça, c'est clair, tout le monde a un intérêt dans cette optique-là d'apporter une différence à leur façon, sans nécessairement être dans les soins de première ligne en santé, mais de contribuer à la recherche, de contribuer à l'amélioration des services pour, d'un point de vue pharmacologie, point de vue médicaments. Mais, tu sais, il y a aussi tout un aspect toxico, même qu'on n'a pas parlé, mais abus dépendance, drogue récréative.
Avec l'opioïde, là, justement.
Ouais, exactement.
Ça aussi, c'est un aspect de la pharmacologie qui est important.
Puis je rajouterais peut-être aussi, pour ceux qui veulent être représentants...
Oui?
Mm-hmm. Oui, en fait, c'est beaucoup plus facile, ou du moins, c'est le feedback qu'on entend des entreprises pharmaceutiques, c'est plus facile de montrer un côté marketing à des gens qui connaissent déjà le médicament que d'apprendre le côté médicament à quelqu'un qui connaît le marketing. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avoir les deux bacs, en fait, c'est clairement un avantage. Là.
Mais ça fait partie de la formation même, mm-hmm. au bac en pharmaco, ça fait partie de cours à option pour ceux qui veulent un profil davantage entreprise, même entrepreneuriat en pharmaco. C'est des cours qui sont donnés. Il y a aussi une représentation pharmaceutique, comme tu viens de le mentionner, et tous les aspects légaux aussi de la médication
Ouais, c'est
au Canada.
Oui, c'est ça. Le programme couvre beaucoup d'aspects. Hein. Le baccalauréat serait plus général, dans le sens qu'on couvre plusieurs aspects. Puis après ça, on va se spécialiser un peu comme dans tous les programmes à la maîtrise. Mais
même avant ça, excuse-moi de te couper.
Oui, non, vas-y.
Même avant ça, dès la dernière année, nos étudiants peuvent se spécialiser dans un ou autre des cheminements qui les intéressent. On va avoir un profil davantage recherche.
OK.
Donc, on pense à Émile puis Marie-Frédérique qui s'en vont vers la maîtrise. Donc, je pense que c'est un peu plus leur profil. Mais on a l'autre profil qui est plus industrie. Donc, on a des cours qui sont plus cours à option qui sont plus appropriés pour cette
industrie
profil-là.
Voulant dire.
Encore une fois, c'est assez large. Industrie, on a autant pharmacovigilance, ça veut dire surveillance du médicament post-commercialisation, brevet.
Ah, ça, donc, c'est la dernière étape de la fabrication du médicament.
Exactement.
Ce que les gens savent moins. Excuse-moi, je t'arrête, je t'interromps.
Pas de problème.
On se coupe les deux. Mais on a plusieurs étapes. J'ai fait une affiche visuelle là-dessus dans le bureau, mais après. Que ce soit homologué auprès de Santé Canada, il y a encore une autre phase clinique après de vigilance, pharmacovigilance. Puis c'est de ça dont tu parles, hein, c'est ça?
Oui.
Donc, pour les gens à la maison, moi, j'aime beaucoup essayer d'atténuer le scepticisme envers la conception de médicaments, tout ça. Tu sais, on sait qu'avec la COVID, j'en reparle beaucoup, mais il y a beaucoup plus de scepticisme. Donc, peut-être de dire ça aux gens que le médicament homologué, on ne le laisse pas dans la nature, puis on verra. Tu sais, il y a une pharmacovigilance qui peut être prise dans le profil industrie. Puis, je te laisse continuer.
Mon Dieu. tous les aspects aussi, propriété intellectuelle, brevet, quand on passe... par exemple, des molécules quand on veut faire des génériques. Ça aussi, c'est tout un aspect qui va être enseigné au bac.
Ah, les génériques, oui, qui coûtent moins cher. Merci beaucoup à ceux qui... fait qu'eux autres pourraient
oui,
tout...
Ouais, c'est ça. Mais que finalement, le travail a été fait de recherche a été fait au préalable par ceux qui détenaient le brevet en première. Oui, oui.
Puis ça, les génériques, ça veut dire que les gens qui possédaient le brevet ont autorisé... une autre compagnie à faire un générique, comment?
Souvent, ils ne vont pas l'autoriser parce qu'ils vont perdre de l'argent s'ils font ça. Tu me corrigeras si j'ai tort, là, mais je crois à partir du moment que tu déposes ton brevet, tu as une vingtaine d'années pour l'exploiter.
OK.
Puis à partir de là, les compagnies génériques peuvent recréer une molécule similaire.
Exactement. Ah, OK. Donc, ça prend une vingtaine d'années après la création d'une molécule avant qu'on puisse voir apparaître sur le marché des génériques et même plus parce qu'on sait que c'est... Ben, je ne sais pas à quel point c'est long, mais créer une nouvelle molécule, c'est 10-15 ans. Je ne sais pas à quel point partir
c'est
d'une
long.
Molécule déjà existante pour faire un générique, c'est long aussi.
C'est beaucoup moins long. Puis tu l'as dit, là, c'est 10-15 ans le développement du médicament. Donc, ça laisse très peu de temps pour profiter de ton brevet et de tout l'argent que tu as mis dans, dans ta compagnie pour le développer. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement cher, les médicaments. Une bonne partie de la raison, en fait.
Oui, les entreprises qui font les génériques par la suite doivent quand même prouver, ils passent par tout un processus là, qu'ils doivent prouver que leurs médicaments sont bioéquivalents avec l'initial. Puis, il y a des pharmacologues qui vont travailler là-dessus, entre autres.
Oui, puis tu allais dire quelque chose, Marie-Philippe?
Oui, c'est ça. J'allais dire qu'en fait, le brevet n'est pas déposé quand ta molécule est toute prête puis que tu veux la mettre en marché. Donc, c'est pas 20 ans que tu as de vente de molécules actives et sur le marché. C'est quand tu découvres quelque chose d'intéressant que tu veux protéger cette propriété intellectuelle-là en faisant un brevet. Bien, c'est d'avoir fait tous les tests.
Les phases chimiques.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. C'est comme une course contre la montre de, tout au long du développement, pas juste à partir de la mise en marché de la molécule.
C'est vrai. C'est vrai. Quand on pense, par exemple, à Fernand Gobeil qui a breveté sa nouvelle formulation d'insuline, bien, c'était pas nécessairement sur les tablettes le lendemain matin. Là. T'sais, c'est ça. Ça a pris. Il y a plusieurs phases. Il y a une phase préclinique. Ça, on parle avec les animaux, différents tests avant d'arriver sur l'être humain. Mais une fois sur l'être humain, je pense qu'il y a trois phases cliniques. Avant que ça puisse être homologué. Ça dépend. Je vois que tu dodelines la tête un peu, Émile.
Ça dépend. En fait, je vais te laisser t'exprimer, Mélissa.
Techniquement, il y en a quatre, mais c'est vrai que si je ne me trompe pas, là, je vais pas trop m'avancer, mais il me semble que la quatrième est comme en même temps que la commercialisation.
C'est optionnel.
C'est ça.
Oui, optionnel, oui.
OK. Fait que ça dépend des molécules, peut-être. Ça dépend.
En fait, tout l'aspect pharmacovigilance va se passer souvent dans la phase 4 du développement du médicament.
OK. Fait que mon schéma est peut-être pas totalement exact. Je te le montrerai, Mélisange, pour que tu puisses juger de mes capacités. Puis si, là, on parlait de recherche. Oui, recherche, mais toi, par exemple, Marie-Frédérique, tu t'intéresses à l'agroalimentaire, à tout ce qui est-ce que toi, t'aspires à travailler en industrie, justement, même si tu vas en recherche?
Je dirais qu'en ce moment, je ne le sais pas.
OK.
Donc, j'ai fait mes deux premiers stages, comme je mentionnais, vers quelque chose que je savais que j'aimais pour aller découvrir c'est quoi les options que, avec mon bac en pharmaco, je pouvais aller exploiter, justement. Mais comme en ce moment, je suis à mon dernier stage que je vais transformer en maîtrise dès l'automne. Puis, c'est pas du tout en industrie. Je l'ai fait un peu plus en fondamental.
C'est ça qu'on disait. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, au centre de recherche, je suis ici. Puis, tu vois, c'est quelque chose qui était complètement nouveau, que j'ai découvert là, 3 mois quand l'offre de stage a été déposée. Puis, j'ai décidé d'en faire ma maîtrise. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je trouve super intéressant aussi. Puis, je vais aller vers ça. Donc, mes portes sont complètement ouvertes. Puis, je trouve ça le fun de pouvoir me permettre de les laisser ouvertes parce que c'est un programme qui le permet puis qui me donne plein d'options après le bac, justement.
Moi, c'est ça que je comprends. C'est qu'on peut penser que c'est très ciblé, mais finalement, il y a plusieurs options. Puis pour terminer sur l'industrie, là, je sais que c'est pas dans l'industrie, mais justement, ta maîtrise, ça va être quoi à peu près ton sujet? Est-ce que tu as une petite idée de... Ça va tourner autour de quoi? Est-ce que tu as une idée précise de ton sujet de maîtrise?
C'est pas encore coulé dans le béton, mais en fait, on travaille sur c'est l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, précisément. Donc, on travaille sur les récepteurs apélinergiques. Donc, c'est développer une molécule qui pourrait... Parce que l'insuffisance cardiaque, justement, avec fraction d'éjection préservée, il n'y a pas de molécule de médicaments en ce moment sur le marché qui ont fait des preuves incroyables. Donc, on cherche à les
améliorer.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est comme une maladie rare ou...
Non, c'est pas du tout rare. En fait, c'est 50 % des personnes avec une insuffisance cardiaque qui ont ce problème-là, puis ça représente une très grande partie de la population. Oui.
Plus âgée, j'imagine, l'insuffisance cardiaque?
Ça s'aggrave avec le vieillissement, mais c'est pas nécessairement juste les personnes âgées qui peuvent en souffrir.
OK, c'est super intéressant. C'est le fun de voir justement un profil comme toi, aussi comme toi, Émile, mais un profil comme toi, Marie-Frédérique, qui est comme toute ouverte, puis se dit, moi, tu sais, j'expérimente, puis c'est ce que le bac permet. Puis là, on a un profil vers la dernière année industrie, mais c'est quoi les deux autres? Tu avais parlé de trois branches qu'on pouvait...
Mais c'est plus deux branches, c'est-à-dire le profil industrie, le profil recherche. C'est deux grands profils. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'options dans les deux, mais souvent, notre profil recherche, ça va être nos étudiants comme ici qui peuvent faire la passerelle bac maîtrise qui est super intéressante quand on va aller faire des études graduées, quand on va aller faire une maîtrise. Ça raccourcit, dans le fond, les études avec ce profil-là.
OK, OK. Parce que là, les gens qui vont choisir la branche industrie, eux, veulent faire le bac, puis c'est tout, si je comprends. Ils ne veulent pas nécessairement aller à la maîtrise.
C'est généralement, oui, je dis en général, parce que ça peut changer, mais c'est généralement, oui, des étudiants qui veulent aller sur le marché du travail tout de suite après le bac. Donc, ça va être un profil qui est plus... professionnalisant vers des emplois en industrie, justement.
Ça, c'est important de le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent que pharmaco, tu as besoin de faire une maîtrise ou tu as besoin de faire un doctorat, alors qu'on peut faire quelque chose avec le bac. Comme le bac en psycho, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. Tu peux faire ta maîtrise et ton doc. T'sais. Mais du côté pharmaco, il y a quand même des possibilités aussi. Puis si on parle, par exemple, de préalable pour entrer en pharmaco, j'imagine les sciences pures, ça doit être un préalable pour être capable d'entrer en pharmaco, mais y a-t-il d'autres préalables pour être capable de faire son entrée dans ce bac-là?
Mais comme tu l'as mentionné, c'est sciences de la nature, sciences pures au cégep ou sciences lettres et arts aussi qui fonctionnent.
Sciences humaines, non? Ça...
Non, malheureusement, il manque quelques cours pour accéder au bac.
Tout bad pour moi.
Oui, c'est ça. Ben, si jamais tu veux te reprendre, Véronique, il existe d'autres options.
En médecine, ils nous acceptent, hein?
Ah, oui.
Oui, j'ai appris ça récemment, avec une petite remise à niveau. Mais...
Oui, c'est ça. Ben, pour nous aussi, ça serait
savoir c'est quoi un orteil,
une remise à niveau.
Oui.
Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont fait une technique au préalable, qui viennent faire... en fait, là, on a aussi une option de passerelle de DEC vers le bac où on crédite une partie des cours, en fait, à ces étudiants-là.
Les techniques en laboratoire au cégep?
Ça peut être même, on a des cours crédités pour ceux qui font, exemple, la technique en santé animale. Mais oui, c'est sûr, les techniques de laboratoire vont avoir des fois jusqu'à une année complète d'accréditées.
Okay. Wow!
Oui, qui peuvent rentrer en deuxième année.
C'est vraiment intéressant, ça. Oui. Ça fait que ça, c'est bon à savoir pour les gens qui écoutent aussi. Là. Fait que, on peut, si on fait une technique, parce que c'est vrai que quand on pense à un préuniversitaire, c'est 2 ans. Une technique, c'est plus 3 ans. Donc, mm-hmm. Ça explique quand même, mais de voir que ça peut être équivalent à une première année de bac. Parce que, dans le fond, là, on peut peut-être aller plus dans le nitty-gritty. Première année de bac, qu'est-ce que c'est en pharmaco? Deuxième année, troisième année? Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi les cibles de ces 3 années-là? Qu'est-ce qu'on regarde?
Bien, c'est intéressant parce que le programme est justement un peu tourné sur comment qu'on fait le développement du médicament. Donc, on commence au moléculaire, au fondamental. Après ça, on passe au préclinique. Ensuite, en phase clinique avec l'humain pour terminer à la commercialisation du médicament. Donc, on a vraiment monté le bac en suivant ça.
Ah.
On commence évidemment à mettre les bases pour tout le monde. On pense entre autres à mettre des bases en chimie, biochimie, biologie cellulaire parce que aussi nos pharmacologues, ils vont évoluer dans des équipes multidisciplinaires. On veut qu'ils soient capables de discuter avec des chimistes. Peut-être que et donner vos expériences. Émile, tu dois travailler, entre autres, avec
plusieurs chimistes, oui. Puis,
chez Pierre-Luc.
Oui, chez Pierre-Luc, puis chez Steven Ballet aussi en Belgique. Donc, plein un peu à travers le monde. Puis, un des gros avantages du bac, c'est qu'on a énormément de laboratoires. Mm-hmm. Donc, avec Mélissange, avec Valérie aussi, qui est l'autre coordonnatrice de laboratoire. Donc, à chaque session, on a des laboratoires pour expérimenter.
Okay.
Puis, je pense que c'est un des seuls programmes qui en offre autant, là.
On a, je vais pas commenter pour les autres programmes, mais on a effectivement un bon ratio de labos. Puis ce qui est intéressant aussi pour ceux qui aiment le labo, du moins, c'est qu'on commence dès la première session. Les étudiants arrivent, première session, tout de suite, on a des travaux pratiques, des demi-journées qui viennent passer avec moi pour faire de la microbiologie. Mais donc, pour revenir à ta question, Véronique, c'est on commence en mettant les bases pour que tout le monde se comprenne après
oui.
ça. Et on continue en venant en deuxième année davantage creuser dans des concepts pharmacologiques. Donc là, vraiment, on a des cours sur la pharmacologie qui vont aborder différents aspects. On va aborder la toxicologie, la pharmacodynamie, pharmacocinétique. Là, je dis des grands mots qui font partie, en fait, du domaine de la pharmacologie. Pharmacoépidémiologie aussi. Puis, on va aller voir aussi un aspect clinique. Donc, nos étudiants... en finissant le bac, sont capables d'écrire des protocoles cliniques, sont capables de mener à bien des études cliniques, de faire du recrutement de patients, par exemple, dans ces contextes-là. Et on termine avec, comme je l'ai mentionné tantôt, les aspects plus commerciaux. Quand même, nos étudiants, même s'ils font, vous pourrez peut-être donner votre vécu, Marie-Frédérique, Émile, qu'est-ce que vous avez fait un peu comme cours par rapport à ça, même si vous avez fait un profil plutôt recherche?
Oui, il y avait entre autres le cours de pharmaco-économie qui était quelque chose de complètement nouveau, qui sortait vraiment de la science, mais qui était tout plus un côté, gestion des fonds, gestion de qu'est-ce qui vaut la peine d'investir dedans, c'est quoi les risques économiques associés à la mise en marché d'un médicament, par exemple.
Wow, OK. Puis même chose de ton côté,
oui,
j'imagine.
Absolument.
Aussi. Vous êtes dans le même bac, finalement.
On a le même profil, absolument.
On est déjà à une minute de la fin, donc je terminerai. Oui, ça va vite, hein, quand même. C'est comme une discussion de salon, on dirait, puis ça passe super vite quand on est en bonne compagnie. Si je vous demandais, tour à tour, pour vous, pourquoi pharmacologie? Pourquoi étudier en pharmacologie en peut-être quelques mots, Mélisange?
Pour faire une différence en santé, si vous êtes intéressé à travailler pour améliorer la santé de la population, c'est le bac tout défini pour ça.
Très bonne réponse. Très bonne. Il n'y a pas de mauvaise réponse, remarque. Très bonne réponse. Et toi, Émile?
Tu m'as volé ma réponse. si vous êtes quelqu'un de curieux, clairement, qui veut pousser la science plus loin, faire de la recherche, c'est mon profil type que je suggérais.
OK, OK. Puis toi, Marie-Frédérique?
Moi, je dirais, si vous êtes quelqu'un un peu comme moi qui n'est pas fixé sur ce qu'il veut faire, c'est un bac qui ouvre énormément de portes, qui permet d'aller explorer tellement d'options, même si c'est de la recherche ou de la science, c'est au final, mais t'as vraiment beaucoup d'options. Puis le programme coopératif est aussi un très, très beau bonus de ce bac-là, je dirais.
Oui, c'est une autre façon de quand on ne sait pas quoi faire du côté scientifique, tu sais, la pharmaco, du côté sciences sociales, c'est communication. Non, mais c'est comme la réputation qu'on a en communication souvent, mais c'est de moins en moins. Mais merci beaucoup à vous trois pour vos lumières. En fait, je suis sûre que ça va avoir aidé plusieurs aspirants, étudiants à l'université à se faire une tête aussi, puis peut-être à découvrir une nouvelle, nos balados en général permettent ça, mais aujourd'hui, peut-être à découvrir un nouveau champ d'études qui pourrait les intéresser. Dans le futur. Mm-hmm. Puis aussi, les gens, sans nécessairement vouloir étudier la pharmacologie, à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils font les pharmacologues, puis à quoi ça sert d'étudier là-dedans, puis c'est quoi leur rôle dans leur vie aussi, parce qu'on a tous un peu pris des médicaments dans notre vie, là. On n'a pas trop le choix une fois de temps en temps, puis bien, c'est grâce aux pharmacologues qu'on est capable de prendre ça, puis qu'on est plus au Moyen-Âge, puis qu'on n'a plus une espérance de vie de 50 ans, même peut-être un petit peu moins. Donc, merci à vous. Puis, c'était notre 5e épisode, notre dernier épisode de la saison. On va revenir en force pour le 6e épisode en septembre avec un sujet super intéressant, justement, qui va être connexe à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Les étapes de création d'un médicament. Donc, comment ça fonctionne, plus en détail, avec des chercheurs de l'Institut qui vont pouvoir nous aider, et les auditeurs à mieux comprendre comment ça marche, puis c'est quoi les étapes que ça suit, puis pourquoi ça prend 10-15 ans, puis que ça coûte 2 milliards. Donc, ça va être un petit peu notre sujet. Alors, je souhaite une excellente journée à vous trois. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, puis on se retrouve peut-être dans des prochains balados. Vous allez continuer à la maîtrise, donc on va peut-être se revoir dans le cadre de vos projets. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.